Il est 11h10. Patrice Saint-Pierre est dans mon studio. Ça arrive pas souvent que je le reçois face à moi. Allô?
Salut, je t'ai fait un cadeau une journée en retard, mais
ben
je suis
oui,
là.
Ben oui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Aujourd'hui, on parle de la Journée internationale des aînés.
Exact.
Là, je te pose la question parce que je vois bien que c'est la Journée internationale des aînés, mais je vois aussi qu'au Canada, on parle de la Journée nationale des aînés. Est-ce qu'on doit dire nationale? Est-ce qu'on doit dire internationale?
Ben, en fait, on a eu une journée nationale et finalement, par la suite, l'ONU a décrété une Journée internationale des aînés. Donc, cette journée-là a été décrétée officiellement par l'ONU mondialement pour célébrer ou souligner de façon particulière la contribution des aînés dans nos collectivités. Oui, c'est fêté ici au Canada, c'est fêté un peu partout à travers le monde. Fêter de quelle façon? Je pense que c'est plus une façon de souligner des fois la part de ces gens-là, d'apporter un regard aussi sur leur contribution dans le développement de nos collectivités. Mais en même temps, j'ai déjà me posé aujourd'hui la question, c'est quoi maintenant un aîné dans la société d'aujourd'hui? Et c'est une bonne question parce que si je regarde au travers des années de carrière que j'ai, je trouve que ça a fondamentalement énormément évolué. Les aînés d'aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on avait par le passé. Premièrement, juste au niveau de l'espérance de vie, on a eu une croissance phénoménale. Mais on a aussi aujourd'hui des aînés qui sont en bien meilleure santé, qui sont énormément actifs, beaucoup de gens encore sur le marché du travail, qui contribuent bénévolement. Et on voit aussi le nombre de nonagénaires et de centenaires augmenter de façon continuelle. Donc, on voit qu'il y a vraiment un déplacement des strates d'âge où à l'époque, moi, je me souviens, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, les bénévoles qui avaient 65 ans à l'époque, je te dirais, avaient de l'air, il y a 35 ans, ont de l'air des gens de 85 ans aujourd'hui.
Oui, bien, c'est probablement ce qu'on mange, la nourriture. Je ne sais pas, on a de meilleures informations au niveau de la santé, ce qu'on doit faire ou pas. Mais c'est vrai que quand on regarde les photos de l'époque puis qu'on regarde aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas le même rythme de vie, mais c'est quand même fascinant.
Mais tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. La question de l'alimentation, c'est vrai. Tu sais, à l'époque, on avait la bonne vieille pinte de lait avec quasiment la crème qui était sur le dessus, le gros beurre. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau des technologies médicales. On contrôle mieux certaines maladies qu'on ne contrôlait pas à l'époque. Puis, il faut aussi ajouter à ça toute la contribution de l'activité physique, des saines habitudes de vie pour faire en sorte de conserver une autonomie le plus longtemps possible. Et ça s'est traduit également par l'augmentation de l'espérance de vie et l'augmentation de l'espérance de vie aussi en meilleure santé, même si un jour, tôt ou tard, autour de 69 ans maintenant au Québec, on a les premières limitations fonctionnelles qui vont apparaître, qui ne sont pas quelque chose de majeur, mais qui vont avoir dans notre quotidien une incidence sur nos décisions, etc. Donc, c'est quand même intéressant de voir le portrait parce que on sait que le vieillissement, tout le monde a un peu de difficulté avec ça, de dire « Ah, bien, c'est pas drôle, je vieillis », alors que c'est vraiment un privilège de vieillir et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Bien, écoute, je veux juste te dire, là, moi, je regarde les chansons sur le vieillissement, là, « Je veux pas vieillir », « Vieillir seul », »,« Vieillir à mode », »,« On veut pas vieillir », « Je veux pas vieillir », tu sais, c'est des chansons qui ont tous en lien avec ça. Ce qui est positif dans le vieillir, c'est souvent les titres « Vieillir ensemble », par exemple, « Vieillir à deux ». Mais sinon, c'est plus négatif qu'autrement dans les titres de chansons, en majorité. Fait que je trouve ça intéressant de le partager. On a vraiment cette idée-là. Puis même si je ne veux pas l'avoir, cette idée-là, j'ai quand même l'idée, en regardant autour de moi, puis ce qui se passe parfois avec des gens qui sont en train de vieillir, qui ont des maladies, le système de santé, j'ai pas tant hâte que ça de vieillir. Mais quand je te parle, j'ai espoir que ça peut être différent.
Bien, c'est culturel aussi au Québec, ce que l'on a comme situation par rapport au vieillissement de la population. Puis, c'est une excellente intervention. Tu sais, je veux dire, lorsqu'on considère que le vieillissement, dans le fond, il commence la première journée qu'on vit au monde, hein?
C'est là
qu'il commence le vieillissement. Il n'est pas à un âge donné. Puis le vieillissement, c'est une question d'attitude aussi. Tu le sais, on se l'est partagé. On a fait une entrevue en direct la semaine passée de notre voyage vélo en Europe. Il y a des gens que je regarde qui refusent de vieillir dans leur attitude. Physiquement, ils ont leur âge, mais au niveau de l'attitude, ils sont ailleurs. Et c'est dans l'attitude. Je veux dire, l'aspect physique de la chose, on ne peut pas le changer. On peut le changer. On peut repousser. On peut faire en sorte de... Mais dans notre attitude, c'est là qu'on va avoir vraiment quelque chose qui va être important. Puis la société aussi. La société de stigmatiser un peu l'image des personnes âgées en ayant des images qui sont péjoratives. Tu sais, ici au Québec, quelque chose qui est vieux, c'est quelque chose qu'on met en marge, qu'on va tasser, qu'on n'a plus besoin.
Absolument.
Alors que chez les Africains, hein, c'est les sages du village, c'est les gens à qui on va référer. Chez les Africains, c'est le trésor national. Donc, si on rechange un peu cet aspect-là de culture, en disant aussi aux jeunes, à un moment donné, lâchez votre téléphone de googler, puis prenez le temps de parler avec un grand-parent, avec un proche, avec un aîné qui a vécu, qui a du life, là, puis du human. Vous allez apprendre aussi des choses qui sont extraordinaires, puis que les entrelignes de Google vous donneront jamais. Et ça, malheureusement, on l'a perdu un peu dans notre collectivité avec la transmission des générations, parce qu'on est aussi une société plus éclatée. Tout le monde travaille, les familles sont plus petites. On a une société aussi qui est très, très performante, au lieu d'une société qui prend le temps de simplement vivre aussi.
Absolument. Bien, c'est tout un changement de société, pas juste pour les aînés. C'est tout le monde qui doit prendre conscience de ça. Puis, tu sais, de parler même juste à ses parents, de poser des questions. On a oublié des fois qu'eux autres aussi ont été jeunes. Eux autres aussi ont pris des décisions. Il leur est arrivé des choses. Le partage de ces histoires-là, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas des fois. On est surpris de leur histoire. Juste de partager les histoires ou d'aider les gens. J'ai une belle-sœur qui demeure en haut d'une dame qui est plus âgée. Donc, elle a un potager. Fait qu'elle va l'aider pour son potager une fois par semaine parce que ça lui fait plaisir puis qu'ils ont un bel échange. Bien, ça aide. Ça crée des liens à un moment donné. Tu te rends service.
Bien, écoute, il y a quelque chose, puis on va prendre les années COVID.
Oui.
Qu'est-ce qui a manqué aux gens durant le COVID alors qu'on a toutes les technologies possibles au monde?
Les liens.
Les liens. Et les liens, ils s'entretiennent. Je veux dire, on peut les entretenir par la communication, c'est vrai, mais il n'y a rien comme les gens qui se rencontrent. Puis c'est un des mandats de la FADOC, de briser l'isolement, de faire en sorte que les gens se voient, puis de leur donner une valorisation aussi, parce que tantôt on disait, souvent ce qui est vieux, on le met en marge de la société, alors que si on apporterait une valorisation à ça, puis on commence à le retrouver un peu, mais par défaut. Puis je te dirais, si on regarde tout le retour sur le marché du travail de gens qui a passé aujourd'hui 50, 60 ans et même 70 ans, bien, les entreprises n'avaient plus le choix. Mais pourquoi avant on ne l'a pas fait alors que ces gens-là étaient un potentiel quand même intéressant? Non, simplement, on leur disait, bien, à l'époque, les jeunes disaient, bien, vous prenez la place sur le marché du travail. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, mais la place, elle appartient à personne. La place, elle appartient aux individus, indépendamment de l'âge, du sexe et tout ça. Donc, on a une réflexion à se faire, mais en même temps, je pense qu'il y a des signes positifs. Puis notre attitude face au vieillissement, notre propre aptitude face au vieillissement, fait en sorte que, je le disais tantôt, c'est toute une façon d'être. Puis moi, pour travailler auprès des aînés depuis 35 ans, j'ai appris de ça parce que j'en ai tellement vu que je me dis, je me nourris de ça lorsque je vois des gens de 85 ans sur un vélo, lorsque je vois des gens
c'est
qui
inspirant.
Jouent au pickleball, ici, un monsieur Jonquière qui joue au pickleball à 90 ans et plus, c'est, tu te dis, c'est incroyable. Il y a un propriétaire d'entreprise au Saguenay, là, de plus de 100 ans, qui va encore au bureau à chaque semaine.
Ah, oh, bien, tu m'impressionnes.
Il faut apporter une valorisation à ça et les faire ressortir, ces cas-là, pour dire, regardez, il y a encore de ces situations-là qui existent et qui sont extrêmement positives.
Bien, on a tendance à mettre l'accent sur les mauvaises nouvelles. Je me demandais, tu sais, la FADOC, elle travaille sur plein de dossiers. Là, il y en a un, tantôt, tu me montrais quelque chose qui se passait dans l'actualité aujourd'hui à Ottawa. Parle-moi de ce dossier-là.
En fait, c'est le bill C-319 qui touche les pensions de sécurité de la vieillesse. Justement, on parlait du COVID il y a quelques minutes. Durant le COVID, le gouvernement fédéral a décrété une augmentation de la pension de sécurité de la vieillesse de 10 %.
Mm-hmm.
Mais la pension de sécurité de la vieillesse, elle est éligible à partir de 65 ans pour l'ensemble des aînés canadiens. Sauf que cette augmentation de 10 %-là n'a été faite que pour les gens de 75 ans et plus. Alors là, on ne comprenait absolument pas pourquoi le gouvernement allait comme ça, créait comme deux classes à l'intérieur des gens de 65 ans et plus. Et depuis le temps, on militait énormément en faveur de cette augmentation-là du supplément de revenu garanti et de la pension de base. Et pour ça, bien naturellement, on est allé chercher des alliés au niveau des partis politiques qui sont dans l'opposition parce que du côté du pouvoir, on n'avait pas de, de l'aide, tu sais, lors des rencontres prébudgétaires qu'on parle souvent dans nos chroniques, on a le demandé à de maintes reprises. Donc, il faut travailler avec les oppositions. Et là, le Bloc québécois vient de déposer une motion aujourd'hui en Chambre dans laquelle il demande au gouvernement, bien, si vous voulez que le gouvernement survive jusqu'à Noël, bien, il va falloir que ce bill-là passe et que les gens de 65 à 75 ans aient cette augmentation-là de 10 %. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle. On l'avait effleuré la semaine dernière, ou il y a deux semaines, lors de nos chroniques. C'est une très bonne nouvelle pour nous parce qu'on pense que finalement, ça devrait passer parce que sans ça, on s'en va en élection au Canada. Donc, c'est une façon de négocier à l'heure actuelle et c'est une bonne nouvelle. Et on verra qu'est-ce qui va arriver, mais je crois qu'il y a beaucoup d'optimisme dans un dossier qui traîne depuis déjà 2020-2021. Je ne me souviens pas exactement de l'année à laquelle on a mis la mesure. Donc, bonne nouvelle à prévoir pour les gens de 65 à 75 ans.
Est-ce qu'on travaille au Québec sur des idées novatrices? C'est-à-dire, tu sais, des fois, quand on regarde ce qui se passe dans le monde pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs ou pour d'autres situations, on parle des fois ensemble de maisons bigénérationnelles. Mm-hmm. Dernièrement, il y avait un colloque, là, un toit pour vieillir. Est-ce qu'on travaille à trouver puis à regarder ce qui se passe dans le monde pour amener des idées qui pourraient être intéressantes, qui pourraient changer la situation de plein de personnes?
Bien, écoute, si on ne le fait pas, on est dans une grave erreur parce que déjà, il y a plusieurs années, on travaillait, nous, au niveau de la FADOC pour dire aux gens, écoutez, il y a un vieillissement qui s'accélère puis pour lequel on va avoir des adaptations qui sont nécessaires. Là, on est déjà un petit peu en retard puis on court après notre queue. Et lorsqu'on regarde les projections démographiques, on parle de 3200 personnes au Québec actuellement qui ont plus de 100 ans. Mais d'ici 30 ans, on parle d'environ 50 000 personnes qui vont avoir 100 ans au Québec. Mais là, on parle juste des centenaires. Il faut après ça décliner les 90, les 80 ans qui vont augmenter aussi de façon très, très importante et qui vont avoir aussi des situations pathologiques, curatives qui doivent nécessiter des adaptations. Donc oui, la société évolue. On a vu apparaître au cours des dernières années les maisons des aînés, les services de soins à domicile. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se travailler. Il faut aussi s'inspirer de modèles, notamment la Hollande, qui est très avancée dans la façon de soutenir les soins à domicile des aînés, vraiment en évitant les hospitalisations, tout ça. Eux, ils ont vraiment poussé, ça fait plusieurs années, donc il y a une culture là qu'il faut regarder. Mais dans l'implantation, c'est pas évident et c'est pas très fashion de prendre des décisions à l'égard d'une population âgée. Si on regarde politiquement, là, aujourd'hui aussi, on attache notre ministre de la Santé, prenons juste cet exemple-là, notre ministre des aînés au Québec, elle est attachée à la santé. Donc, l'image qu'on y garde, c'est uniquement une image lourde, alors qu'au niveau, on aurait pu l'attacher à l'économie, alors qu'il y a plein d'aînés qui travaillent encore actuellement sur... Donc, il y a toute une culture qui est à changer, il y a des investissements qui sont à faire. Puis surtout, il y a une importante réflexion, parce que si le vieillissement est un défi actuellement, il l'est encore pour quelques années, parce qu'éventuellement, les courbes démographiques, à partir de 2030, vont commencer un petit peu plus à se stabiliser. Mais on va avoir une charge de gens âgés qui va continuer parce que l'espérance de vie continue de croître moins rapidement qu'on l'a connu dans les dernières années, justement à cause de la mauvaise alimentation et de la sédentarité qu'on commence à connaître chez les plus jeunes générations. Donc, il va falloir qu'on fasse des adaptations. Ce qui est certain, c'est que si on regarde au niveau des écoles actuellement, il y a 44 % des jeunes qui sont avant la sixième année, qui travaillent, qui étudient pour un travail qui n'existe pas présentement. Alors, si tu regardes ça, bien, notre société, c'est un peu la même affaire. Il y a des mesures, il y a des choses qu'on doit mettre en place aujourd'hui, qu'on doit innover, qui ne sont pas là actuellement, des modèles d'affaires. Tu sais, les maisons bigénération, on est déjà dépassé. Il faut déjà regarder au-delà de ça. Dans des quartiers qui peuvent être aménagés avec des centrales où on peut avoir des services pour plusieurs résidences.
Oui, comme des espèces de coopératives, là.
Exactement. Donc, en fait, au lieu d'avoir une importante résidence pour aînés, de l'avoir, mais dans un quartier où là, on aurait tout aménagé, les chaînes de trottoir, tout ça, il y a énormément à faire. Mais aujourd'hui, on est dans des concepts de municipalité amie des aînés. La situation a évolué.
Mais les bottines,
les bottines, c'est exactement. On n'a pas mis des espadrilles, on a mis des bottines. Donc, on travaille fort, mais on n'avance pas très rapidement. Donc, mais j'ose croire, en tout cas, que déjà dans un aspect de sensibilisation comme une journée comme aujourd'hui, sert un peu à ça, de dire aux élus, écoutez, il y a à faire quelque chose, non pas pour un droit particulier pour les aînés, Mais pour un droit à fonction, à l'époque, on a construit des écoles pour les jeunes, on a développé des infrastructures, on ne s'est pas posé la question parce que c'était une masse de la population. Mais si aujourd'hui la masse de la population est constituée de gens qui avancent en âge, il faut simplement adapter les services et les infrastructures autour de ça. C'est pas un droit, c'est juste une question de logique en termes de gestion.
Il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement d'entraide, de partage qu'on peut effectuer avec les personnes âgées avec d'autres personnes âgées. Dans ces résidences-là, par exemple, on peut penser à une coopérative. Il y a beaucoup de lois qui bloquent beaucoup d'avancements pour la sécurité. Puis, tu sais, on les comprend, mais on dirait que des fois, ils prennent des décisions en vase clos, puis le lien ne se fait pas avec tout le reste.
T'as raison. Il faut être inventif et ingénieux dans les solutions qu'on va avoir dans l'avenir. Puis l'autre chose aussi, c'est d'arrêter aussi, à un moment donné, de toujours demander au gouvernement. Je pense que dans l'organisation des services, nous, la FADOC, malgré qu'on milite, on est un organisme de défense de droit puis qui fait des demandes au gouvernement, on essaie aussi de voir, nous, de quelle façon on peut contribuer dans le quotidien de ces gens-là pour les maintenir le plus longtemps chez eux possible, en meilleure santé, en les éloignant du système de santé, puis en les faisant contribuer encore au développement de nos collectivités, que ce soit par le travail, le bénévolat, ou dans la consommation ou autre. Mais chacun a une part. Puis lorsqu'on prend conscience de ça aussi, tu sais, c'est toujours facile de pelleter ta neige à côté. Là.
Oui,
mais à un moment donné, ou de la pelleter en avant, à un moment donné, il va falloir que tu
l'enlèves.
Puis il faut se prendre en main. Puis il y a nos propres mesures qu'on doit prendre. Puis ça, c'est important. Comment il y a de gens, puis si on en parle, quand on parle dans nos entourages, des fois, il y a plein de gens qui se ramassent à l'urgence qui n'auraient même pas à y aller. Tu sais, il y a des façons de faire qu'on va devoir revoir. Notre système de santé ne pourra pas subir à long terme l'augmentation des coûts qu'on a là. On est rendu à quoi? Je pense que c'est 70 % du budget qui est consacré à la santé. Si on veut maintenir des écoles, si on veut avoir des... Tu sais, il va y avoir des choix de société à faire à un moment donné. Puis, c'est des débats qui sont importants, qui ne sont pas juste constitués par rapport au vieillissement de la population, comme je le disais, mais par rapport à une adaptation de l'ensemble de notre société à une configuration sociale qui est différente aujourd'hui. Puis j'aime mieux parler d'une configuration sociale qui est différente que de parler d'un vieillissement, parce qu'on dit « Ah, ben c'est la faute du vieillissement », alors que si on parle d'une configuration sociale de société qui est différente, dans sa composition, on ne stigmatise pas une image que c'est la faute de quelqu'un.
Ben oui, parce que le vieillissement, c'est la faute au vieillissement, on va tous vieillir, là, on est tous des humains. Puis,
voilà.
Ben c'est ça, ça n'a aucun bon sens de dire que c'est la faute des aînés. Ou bien des fois, ils vont dire, parce qu'on l'entend, ça, ben là, eux autres, regarde, ils s'en vont vers la fin. Nous autres, c'est l'avenir, on aime mieux viser sur l'avenir. Je veux dire, je trouve ça dur quand j'entends ça.
Ben écoute, puis il y a tellement de choses qui peuvent... T'as raison, puis non seulement c'est dur, mais les gens, des fois, ne se projettent pas ou n'ont pas l'intention. Parce que lorsqu'on a ce regard-là, je dis toujours aux gens, auriez-vous le même regard si c'était votre parent, tu sais, si c'est un proche? Et souvent, ça change le regard de ces personnes-là. Puis il faut se rappeler que, tu sais, j'étais là lors du dernier voyage vélo avec une personne qui avait 80 ans. Et à 32 ans, cet homme-là courait des marathons en bas de 3 heures, courant 10 km en 37 minutes. C'était un athlète et du jour au lendemain, il y a eu un handicap qui a tout reconfiguré sa vie. Mais je le regardais à 80 ans sur son vélo avec une jambe avec laquelle il boite. Il s'est fait dire durant presque 50 ans qu'il avait la sclérose en plaques. C'était un mauvais diagnostic.
Ah,
mais
oui.
Il s'est adapté dans sa vie. Et aujourd'hui, tu ne vois pas l'âge de cette personne-là. Puis même, c'est un homme qui a travaillé dans le milieu politique. Je me dis, ces gens-là, il a fait abstraction de son handicap, de son âge, il s'est adapté et chacun a cette partie-là à faire. Mais il est certain qu'au Québec, on a vraiment quelque chose de profondément ancré au fond de nous par rapport au vieillissement qui est un peu malsain. Puis plus on va en parler, plus nos chroniques avec vous ici nous aident à apporter un éclairage qui est positif par rapport au vieillissement, puis par rapport à la contribution de ces gens-là qui continuent aujourd'hui dans plein de milieux de démontrer qu'ils peuvent être des acteurs de développement puis des acteurs de changement aussi dans nos collectivités.
Alors, sortons des cases, innovons, prenons-nous en main. C'est le message qu'on partage. Vous continuez de la FADOC de vous battre sur les dossiers qui sont essentiels parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Puis en même temps, ben, vous nous amenez quelque chose de positif. Il y a plein d'activités, plein de choses que vous survolez qui sont super intéressantes pour tout le monde, pour nous garder en forme, pour nous garder en santé, autant physique que mentale.
Bien, c'est notre mandat, puis si on regarde ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on en est très fiers, là, on a plus d'une personne sur quatre dans la région qui est membre de notre organisation qui a plus de 50 ans. C'est un taux de pénétration extraordinaire, puis ça, je t'en parle, puis j'ai une grande fierté de ça, parce que c'est un combat de tous les jours de dire qu'il faut lutter contre cette fameuse stigmatisation-là du 50 ans. Mais en même temps, on a accompli quelque chose. Puis peu importe, les gens ils viennent pourquoi, que ce soit pour l'activité de sac de sable, que ce soit pour le vélo, que ce soit pour une activité culturelle, que ce soit pour la représentation politique, que ce soit pour le rabais qu'ils vont avoir,
ben
qu'ils vont avoir chez un commerçant. Bien, les gens, lorsqu'on rentre dans un centre d'achat, on n'est pas obligé d'acheter dans toutes les boutiques. Ils viennent chez nous, qui est le grand centre d'achat FADOC, où il y a une panoplie de services qu'ils peuvent avoir, puis ils prennent le service qu'ils veulent. Donc, et ça, c'est une grande fierté. Puis pour ceux qui ont encore hésité à l'occasion de cette journée internationale, bien, c'est peut-être un cadeau que vous pouvez vous faire, parce que vous voyez que notre préoccupation, c'est de donner une image positive aux gens de 50 ans et plus, mais aussi de faire en sorte d'améliorer leur qualité de vie.
Alors aujourd'hui, c'est la Journée internationale des aînés. Qu'est-ce qu'on fait autour de nous? On va vers un aîné, on appelle quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, on partage un sourire, une conversation à la caisse, peut-être de l'épicerie.
Bien, ça, je pense que c'est des gestes qui peuvent être faits aujourd'hui. Mais tu sais, en même temps, ce que je me dis, cette préoccupation, oui, on peut le faire lors de cette journée-là, mais si demain, dans notre comportement, notre attitude ne change pas, on n'est pas plus avancé, on aura contribué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a à prendre un pas de recul puis dire quelle est ma perception face au vieillissement et de quelle façon, dans mon quotidien maintenant, je peux faire en sorte d'avoir une forme de respect, tenir une porte à quelqu'un, mais pas juste pour une journée, mais pour l'ensemble des journées. Puis, tu sais, ces gens-là, vous allez peut-être faire leur journée de simplement avoir ce petit geste-là. Oui, on peut le faire aujourd'hui. Mais moi, on a beaucoup parlé dans l'entrevue, on a beaucoup parlé de la question de l'attitude. Moi, je pense que les gens doivent profondément se regarder puis dire dans ma famille, dans mes proches, dans mes voisins, de quelle façon je peux contribuer à être un plus pour ces gens-là et à changer l'image que le Québec a de sa population âgée.
Et là, je vais te poser une question que j'aurais dû te poser au début. Il y a bien des gens qui se le demandent parce qu'ils ne veulent pas vieillir. C'est à partir de quel âge on est considéré comme aîné?
Bien, statistiquement, au Canada, c'est à partir de 65 ans et plus, qui est l'âge qui a été fixé aussi avec la pension de sécurité de la vieillesse. Mais il est certain, aujourd'hui, comme on en a fait mention plus tôt, j'ai beaucoup de difficultés à définir c'est quoi un aîné. Mais statistiquement, c'est les gens de 65 ans et plus. Puis lorsqu'on parle à la FADOC maintenant, on ne parle plus d'aînés, on ne parle plus de personnes âgées chez nous, on parle des gens de 50 ans et plus. Donc, en incluant à la fois les 90 ans et les 50 ans, ça fait quand même un peu bizarre parce qu'il y a des gens qui vont dire, c'est tout un mandat parce que des gens de 10 ans et des gens de 50 ans, c'est 40 ans aussi de différence d'âge. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'on a aussi des défis collectifs chez nous à faire en sorte pour faire que les gens dans chacune des strates d'âge trouvent ce qu'ils ont besoin dans le fameux centre d'achat que je vous parlais tout à l'heure, qu'on va avoir à la fois l'aire de jeu et l'aire de repos pour faire en sorte que tout le monde va y trouver son compte. Et ça, c'est un défi quotidien. Mais les gens de 50 ans et plus, indépendamment que tu aies 75 ou 50, c'est une question d'attitude. Puis pour nous, donc, les gens dès 50 ans peuvent adhérer à l'organisation. Puis au Canada, bien, c'est 65 ans et plus qu'on reconnaît comme étant une personne aînée.
J'ai vu hier une petite fille avec sa grand-maman écouter de la musique classique dans un parc, et puis la grand-maman s'est endormie sur l'épaule de sa petite fille. C'est beau, hein?
Bien, ça témoigne d'un paquet de choses. Puis, tu sais, on prend beaucoup de photos. Des fois, on essaie d'imager de belles situations où des grands-parents sont avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants. Mais des photos, il faudrait en prendre dans notre quotidien, de nos gestes que l'on fait, qui sont tout à la fois banals, mais qui peuvent avoir une importance tellement incroyable pour les proches qu'on va avoir. Tu sais, c'est un appel, ouvrir une porte, comme je disais tantôt, aider quelqu'un à prendre un sac. Là, on parle naturellement de gens qui sont plus avancés en âge, mais toute notre attitude va avoir tellement d'importance dans le quotidien de ces gens-là, puis dans l'ensemble, parce que quelqu'un qui voit ça, lorsqu'on commet des gestes, on dit qu'on souvent on agit par image. Lorsqu'on voit quelqu'un qui va le faire, bien, on va avoir tendance aussi à le faire par après, de dire, bien, moi, je suis pas... Puis j'ai toujours la réaction de voir, parce que moi aussi, maintenant, j'ai plus de 50 ans. Puis lorsque j'arrive dans un endroit public, puis à un moment donné, quelqu'un va me tenir la porte avant, puis qui a moins de 20 ans, des fois, je regarde ça, puis je me dis... Tu sais, il y a quelqu'un qui a passé avant lui, qui lui a expliqué ou qui a eu ce modèle-là.
Oui.
Puis ça, ça s'est un peu perdu à l'intérieur des familles parce qu'on
c'est
a comme
vrai.
Confié, quand je disais tantôt la responsabilisation, quand on a confié à l'État, l'État forme les jeunes, mais l'éducation, ça se fait à la maison aussi.
Aussi.
Et ça, ces gestes simples-là, souvent de bienséance et de bienveillance, on les apprend par les proches. Donc, à nous de les transmettre et à de transmettre ces images-là.
Hey, ça, c'est un beau mot de la fin. Si des fois, les gens voudraient prendre leur carte FADOC parce qu'il y a des gens qui l'ont pas encore ou ils voudraient en savoir un petit peu plus, on téléphone chez vous?
Oui, ils peuvent en premier aller sur le FADOC.ca parce que toute l'information est en ligne et l'adhésion est également possible de le faire en ligne ou encore en téléphonant au 418-668-4795, de sorte qu'on passe de une personne sur quatre dans la région à une personne sur trois.
Ça serait génial!
C'est un important mandat. Aujourd'hui, il y a 34 000 membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est important parce que plus on est de membres, plus on est solide, plus on peut demander des choses.
Bien, plus ça nous donne un pouvoir à bien des égards, un pouvoir sur le plan politique, un pouvoir économique. Puis on travaille très fort. Il y a une organisation qui est là avec de nombreux bénévoles qui est présent dans toutes les localités. On a 63 clubs qui sont présents sur l'ensemble du territoire, qui donnent des services dans leur communauté, mais surtout aussi qui sont des acteurs très, très importants parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les caisses populaires ferment. Les églises ferment dans les milieux, les bureaux de poste. Les clubs FADOC sont encore là pour vitaliser les milieux puis donner une vie puis une couleur dans les communautés rurales aussi principalement.
Absolument. Merci, Patrice.
Merci.